rendez-vous.
Rendez-vous.
Qu'est-ce que vous faites ce soir?
Ce soir?
Oui. Rendez-vous.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au nouveau rendez-vous. Oui, c'est le dernier de la saison. Alors je sais, c'est brutal comme annonce, mais mieux vaut crever l'abcès tout de suite. Vali s'est habillée pour l'occasion, tout en blanc, c'est la couleur du deuil en Asie. Mais sur elle, ça fait soirée Barclay, soirée Saint-Trope. C'est votre destination?
Ça, c'est vrai.
Vacances, Vali?
Évidemment, je vais à Saint-Trope.
À ses côtés, Christophe Bourseiller est venu tout en noir, la couleur du deuil en Occident.
Absolument.
Mais sur lui, c'est un côté Thierry Ardisson. C'est un hommage?
Non, c'est un hommage à Johnny Cash.
Ah!
Bah oui, écoutez, j'ai des lettres aussi.
Donc, dernier rendez-vous, et on l'est dû énerver, et on l'est toujours énervé ce soir pour 2 heures de direct dans notre studio 621, suréclairé parce que c'est le cœur de la radio. Et ce soir, pour la dernière, deux invités qui ont tout en commun, parce que c'est ça aussi le nouveau rendez-vous, la bande dessinée, la musique, la moto, même génération. Kent revient avec un nouvel album, La Grande Illusion, 10 titres classieux, travaillés par un sens aigu de la nostalgie. Les titres sont explicites lors des adieux, si c'était à refaire, un revenant. Pas du tout vous, Kent. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Margerin, un héros de la bande dessinée depuis les années 80, le père d'une bande de héros récurrents, Lucien à la banane, Momo le coursier, Ricky et Marc le quinquagénaire à la Harley, qu'on retrouve aujourd'hui dans le 5e tome de la saga Je veux une Harley, qui vient de paraître chez Dargaud. La banane est toujours là. Margerin, bonsoir.
Bonsoir, Laurent.
22h30, l'instant V de Vali, le dernier de la saison, la pression est forte. Pas question de se louper, Vali.
Non, c'est Théodora.
Ouais.
Elle sort un EP qui s'appelle Obsession. Alors, elle en a quelques-uns. Quelles sont-elles?
Machine, contrôle, bruit, fureur, tout ça. Musique obsessionnelle, amour obsessionnel.
Je l'adore en plus, Théodora.
C'est un robot?
Non, non, mais vous allez voir. Théodora porte 2 titres, comme vous avez dit, à 22h30.
Et pour finir la saison, Vali, vous allez nous donner des nouvelles du meilleur des albums à venir pour préparer l'été et la rentrée.
Oui,
c'est la mixtape du jeudi.
C'est un peu le mi-saison. Là, on est dans les soldes, mais moi, je suis dans le mi-saison, c'est-à-dire, il y a quelques...
La collection croisière.
Voilà, il y a quelques titres qui sortent là et d'autres plutôt à l'automne, notamment le nouveau titre de Hercules and Love Affair.
23h le journal, 23h15 on revient avec le énervé la suite pour la dernière fois de la saison et ce soir, eh bien on va faire le bilan de l'année et on va rendre les clés. Christophe Bourseiller.
Oui, vous dites ça de façon un petit peu
triste.
un peu trivial peut-être. Moi j'aurais dit qu'on va faire un bilan politico-géopolitico-culturel, une forme d'épistémologie de la connaissance avec des invités dont vous serez bien sûr, Laurent, sans vous on ne pourrait pas faire l'émission. Moi également je serai là, il y aura aussi Benoît Lagan qui
oui,
va nous rejoindre.
Bah
il vient, il a décidé de venir pour la dernière. Il y aura aussi Jean-Jacques Benex, cinéaste, Michael Prasan, qui est documentariste, Virginie Roels, qui est écrivain et rédactrice en chef de Causette, et puis Guillemette Odissino, qui est journaliste et qui aura le plaisir de nous remplacer cet été.
Exactement.
Elle a de la chance.
Le dernier énervé, ça peut recommencer.
Est-ce que tu vois l'Arc de Triomphe?
Ben non!
Eh bien, tu t'arrêteras quand tu le verras!
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Là, on touche la fin. Ça, on touche pas le fond, mais on touche la fin. Margerin, Quinte, vous avez plein de choses en commun. La BD, Métal Hurlant, la musique, la moto, on va revenir sur tout ça. Vous connaissez depuis de nombreuses années, si vous vous connaissez.
Ben oui, on se connaît. On s'est croisés même dans les locaux de Métal Hurlant à l'époque, parce que Quinte faisait un peu de bande dessinée.
Absolument. Ah, pendant longtemps même, ouais.
J'ai une planche originale de lui.
Oui, on s'est échangé, d'ailleurs, moi aussi, j'ai une planche originale de Margerin.
Vous étiez deux dessinateurs de même génération, en effet, au début de Métal Hurlant, dans les années 70, fin des années 70.
Voilà, c'est ça, ouais, ouais.
Qu'est-ce que vous dessinez? Kent. Parce que Métal Hurlant à l'époque c'était la science-fiction, donc
Pas essentiellement, puisque Margerin faisait des histoires de
oui,
drôles,
oui,
voilà
oui.
Quoi. Et là, t'as fait une ou deux petites histoires de science-fiction.
Oui,
je me souviens,
au début pour me faire partie de la bande, quoi, pour m'infiltrer. Et puis voilà. Après, dès que j'ai pu sortir de la SF, je l'ai fait. Ouais.
Mais déjà dans la science-fiction, même pour les petites bandes dessinées que vous donniez au tout début pour appâter, pour rentrer dans la bande, il y avait déjà des gros nez.
J'étais des gros nez. Je rajoutais juste des antennes. Voilà,
pour faire science-fiction.
Voilà.
Super. Et de votre côté, Kent, qu'est-ce que vous produisiez?
J'ai fait une histoire de science-fiction de 5 pages, voilà, avec un robot. Et puis après, je suis passé à des trucs plus réalistes. Parce que très vite, Métal Hurlant est aussi passé, s'est ouvert à autre chose, notamment au rock. Ouais. Voilà, c'est devenu la revue rock aussi de l'époque. C'est pour ça aussi que j'y étais, sûrement.
Deux nouveaux albums pour vous, La Grande Illusion, ça c'est pour Ken, Je veux une Harley, cinquième tome chez Dargo pour vous, Margerin. Vous êtes venu comment, Margerin, aujourd'hui?
Bah, je suis avec toi, mon vieux scooter, un vieux PX.
Comme la dernière fois.
Oui, hein. Pareil, ouais, voilà.
Ouais. Et de votre côté, Ken?
Moi, un scooter aussi.
Aussi, mais c'est fini, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ouais, c'est fou, ça... tout fout le camp.
Ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est plus pratique d'où je viens pour venir vous voir sur France Inter, c'est plus pratique de venir en scooter. Sinon,
vous aviez eu des motos à l'époque, vous avez eu des motos, une Aronde, j'ai pu lire.
Une voiture. Ouais. Non, j'ai jamais eu de moto, jamais passé le permis. J'en ai rêvé longtemps. Et puis finalement, dans mes rêves, je roulais tellement mieux que si j'avais passé le permis que j'ai jamais passé.
Alors, on va revenir sur la bande dessinée, sur la musique, mais vous avez aussi en commun la radio. Vous avez été un invité récurrent, Margerin, depuis des années.
Et la musique, il a fait partie
du Dennis Twist. On va en parler. C'est vrai, vous avez fait des.
Oui, à l'époque de Dennis Twist, je crois que je sais pas si j'étais encore à la MoICU, mais chacun fait, c'est sûr.
Eh bien, on va écouter un extrait de l'époque Margerin, Dennis Twist.
J'ai tout ce dont tu as besoin, même un cœur qui meurt de chagrin. Vite, écris-moi, je t'enverrai avec des bises de moi pour toi.
Des bises de toi pour moi.
Il fallait oser reprendre les Beatles.
Mais c'était pas mal, ça a bien marché.
Quand ils ont enregistré là, j'étais pas là. Il n'y a que des voix féminines. Oui. C'était une reprise des bises de moi. Enfin, c'était la version Claude François de For Me To You.
Aujourd'hui, vous en êtes où dans la musique?
Je joue de temps en temps devant la télé. Tout seul. Je suis pas vraiment musicien, j'aime beaucoup la guitare, je joue un peu de guitare, mais c'est tout. Et le groupe n'existe plus, non. Tout ça c'est...
Mais vous ne jouez pas avec une bande d'amis ou tout ça? C'est plus du tout.
Si, on fait justement des petits bœufs comme ça, mais voilà, ça reste dans un cadre privé et amical.
Vous vous souvenez de lui sur scène, Valérie?
Mais oui, parce que c'était plein de copains, les filles, elles étaient habillées un peu.
Oui, on
50s.
A bien rigolé, on était neuf sur scène.
C'était dingue.
Parlons radio, vous avez été un de nos animateurs ici sur France Inter, oui. Kent. Vous vous souvenez de cette période-là?
Ah oui, tout à fait. C'était une période... D'abord, c'est très excitant de faire de la radio, mais surtout...
C'était 2013, vibrato.
Oui. Et maintenant que 4 ans sont passés, il y a prescription, je peux dire que si j'avais su le boulot que ça représentait, j'aurais jamais fait. Et que une semaine avant que l'émission démarre, j'avais juste une envie, c'est de prendre un billet d'avion pour loin et de partir.
Ouais, parce que vous étiez tout seul, en fait.
Moi, j'étais tout seul. Je préparais l'émission. Ouais. J'avais une productrice qui m'aidait beaucoup, qui était beaucoup de bon travail, Valérie Bourg, qui est partie d'ailleurs aussi. Mais c'était ce que je préparais l'émission effectivement tout seul. J'avais pas droit à avoir des invités comme vous, donc c'est facile quand
je dis tout seul, c'est ça. Voilà, facile. C'est
nous qui faisons tout le
boulot. Je suis en train de parler. Vous ne parlez pas.
Exactement. On est payé, on ne parle pas. C'est vraiment génial. Alors que vous étiez tout seul, c'est pour ça que je disais ça.
Voilà. Et donc, c'était une émission.
Un peu comme Mishka Assayas aujourd'hui. Ouais.
Absolument. Et donc, l'idée de l'émission, c'était
de mettre beaucoup de disques pour ne pas parler.
Exactement.
C'est ça.
D'accord. Oui, mais Ken jouait.
Je jouais aussi des morceaux parce que c'était la musique vue de l'intérieur. J'étais bien placé parce que j'étais un chanteur. Ah. Et donc, je racontais. Chaque émission était une réponse aux questions qu'on nous pose, nous chanteurs. D'où vient l'inspiration? C'est quoi un auteur? C'est quoi un compositeur, comment vous travaillez, les studios, etc. Donc, à chaque émission était un thème comme ça, quoi. Et puis, parfois, je prenais la guitare pour expliquer une chanson, pas seulement de moi, mais d'autres personnes, quoi.
Ça vous a permis de créer des chansons, d'ailleurs, cette expérience de radio?
Non, pas vraiment.
Non.
Non, pas vraiment. Non, ça a bouffé mon temps sur mes chansons.
De ne pas pouvoir en écrire justement à ce moment-là.
Non, mais c'était vraiment, j'ai adoré ça. En fait, vous faites de la scène?
Non.
Jamais?
Non.
Non. Parce que c'est la même sensation quand quand la lumière est rouge et que le micro s'allume, c'est la même sensation que quand on monte sur scène. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai ressenti, quoi.
Ah, mais c'est exactement ça.
Voilà.
Like it all, so let's do a perfect match. Learn to love.
my beating heart.
Le son de Queens of the Stone Age en attendant leur nouvel album attendu pour le 25 août prochain.
NRV, le nouveau rendez-vous.
BD Quinca avec vous, Franck Margerin, auteur et dessinateur de bande dessinée. On vous doit Lucien, on vous en doit plein. Grand Prix d'Angoulême en 92. En juin 2017, vous signez le cinquième tome de votre saga Je veux une Harley chez Dargaud, sous-titre Quinca requinqué, jeu de mots. On y retrouve vos héros récurrents, Marc et ses potes, Alain, Charles et Gégé, tous en Harley en route pour cette aventure, sept chapters. Et j'ai revérifié dans les précédents, c'est toujours des chapters.
Oui, des chapters.
Bon,
oui.
On peut mettre des chapitres.
Ben, je sais pas, c'est comme ça, c'est l'Amérique, je sais, Harley Davidson, il y a chapter.
Alors, des quinquas requinqués, des gamins, oui, la preuve, ils hurlent ça comme des gosses quand ils sont au concert de leur idole pour fêter 40 ans d'amitié.
Ça fait quand même vachement plaisir de te retrouver, mon pote Lucien. Je parie que t'es encore sans un et t'as toujours ton blouson de cuir. T'as pas changé depuis 68, à cette époque on se fendait la gueule. Aujourd'hui t'as l'air un peu seul. Allez bien, on va se prendre une cuite. Et dis-moi, Lucien, où c'est qu'elle est ta bande? Maintenant qu'est-ce que tu glandes sans tes copains?
Renaud, dans la bande dessinée, on le voit en concert aujourd'hui, ces derniers temps. Vous êtes toujours en contact?
Oui, je le vois de temps en temps. Je vais quand même rajouter juste que c'est les scénarios de Marc Quadrado, c'est bien de préciser. Voilà. Et donc, on est allé voir Renaud, et puis Marc avait envie de faire un petit truc sur lui. Et voilà, c'est drôle, et je m'aperçois qu'en séance de dédicace, là je sors d'une séance de dédicace, énormément de gens me demandent de dessiner Renaud.
Ouais.
Dans cette BD, c'est une histoire qui les a marqués, et c'est vrai que c'est une histoire assez tendre. Et c'est vrai que tout le monde aime Renaud, c'est formidable.
Et vous, à quel moment, comment vous dessinez Renaud? La première chose que vous dessinez?
C'était un gros problème parce que parce que je veux pas, voilà, bon, j'ai déjà du mal à faire les gens, mais si bon là le pauvre Renaud, c'est vrai qu'il avait je lui ai fait une tête pas possible, mais
une tête étrange,
oui, non, mais c'est vrai que il est pas facile à faire.
Qu'est-ce qui résiste dans le visage de Renaud pour qu'il soit
non
aussi
c'est il a un regard un peu fatigué, il a les enfin bon je, voilà, il est pas comme il a été, mais s'il n'est pas facile à faire. Donc je lui ai mis les cheveux devant la figure et avec,
bon, ça permet.
Ça passe à peu près.
Qu'est-ce que vous partagez ensemble en fait avec Renaud depuis toutes ces années? Ben,
en fait, on a le même âge, on est né la même année, on a le même parcours. Lui était à la périphérie de Paris Sud, moi dans le Nord, mais on a vraiment vécu les mêmes choses et c'est bon, c'est mon frère, c'est un frère spirituel.
Il a eu une réaction quand il s'est vu dessiner?
Ah, je sais pas encore. Peut-être. Oui, je suis peut-être. Par contre, Bloody, qui est un peu son bras droit, qui s'occupe de lui, était très très heureux d'être dans la BD.
L'album s'ouvre sur Marc, totalement hypochondriaque, qui court aux urgences au moindre signe de faiblesse, ce qui va exaspérer sa compagne, la patiente Tani. Marc, en pleine crise existentielle, il lui manque quelque chose pour appartenir au milieu des bikers. Tani lui répond, tu n'as qu'à te laisser pousser le ventre et la barbe. On suit vos héros Margerin dans un tribunal pour un feu rouge grillé, au Cap d'Agde pour trouver une fille plutôt chaude à Gégé qui vit toujours avec sa mère, au Cap d'Agde, au Brescoudos. Vous nous expliquez les Brescoudos.
Les filles sont chaudes comme des barbecues. <là-bas>. Alors les Brescoudos, justement, j'ai reçu un petit message des organisateurs du Brescoudos qui étaient tout contents d'être dans la BD. Voilà.
C'est quoi le Brescoudos?
Brescoudos, c'est un motoclub Harley Davidson qui organise chaque année au Cap d'Agde un grand rassemblement, mais il y a des milliers de motards, ça j'ai jamais vu ça.
Donc c'est naturiste et motard.
Alors, il y a une soirée qui se passe dans le camp de naturiste avec tous les libertins, c'est ça qui est drôle, c'est plutôt les libertins d'ailleurs. Ouais. Et on se retrouve donc nous on est habillés, on est les textiles, Moi, je suis resté habillé. Mais on est avec tous les naturistes. Donc, il y a une soirée comme ça, un peu bizarre. T'es mélangé, t'as à côté des gens. Alors, il y en a qui sont avec des piercings, des machins, des looks pas possibles.
Ça partout ou pas?
Sûrement, ouais. Mais bon, non, ça, j'ai pas vu ça, mais...
comment on voit pas, on voit Captain, on voit pas ça, n'importe quoi.
Non, avec Marc, tous les deux, on était un petit peu à l'écart, on rigolait beaucoup, mais non, c'est vrai qu'on a fait plutôt un travail de voyeur, on notait des gags et tout ça, et qu'on a remis dans la BD.
Voilà. Je veux une Harley, la série commence en 2012, vous vous souvenez justement de l'idée de départ avec votre scénariste Marc Quadrado?
Oui, alors Marc, en fait, s'est raconté complètement dans la première BD, c'est-à-dire qu'il a eu une coloscopie à 50 ans, comme ça peut arriver à beaucoup de gens. Et après, il a un peu cogité en se disant, mais si on me trouve des polypes, si on m'annonce que je vais mourir, que j'ai eu le cancer du côlon, je ne sais quoi. Donc, quand on lui a annoncé la bonne nouvelle, que tout allait bien, ça a été une renaissance. Voilà, il s'est dit, la vie est courte, faut en profiter. Voilà. Donc, il s'est acheté son Harley. Mais c'est une histoire vraie, quoi. Il avait une petite 125 Suzuki. Il est passé à la Road King. Et là, il est rentré dans le monde des bikers, mais il connaissait rien à rien. C'est-à-dire que il a appris sur le tas.
Sorte d'autodidacte.
Voilà, exactement. Mais il se raconte beaucoup dans la BD, parce que Marc Carré, c'est Marc Quadrado.
Bien sûr,
tout le monde l'a compris. Et sa femme s'appelle Tani, son beau-frère Alain, etc. Donc, il a vraiment mis tous les éléments réels de la vie. Et les trois quarts, c'est du vécu, quoi.
Ken, parmi tous les héros récurrents de Marjorin, Lucien, Momo, Ricky, Marc, lequel vous correspond? Lequel? Non, pas vous correspond au sens. Non, mais lequel vous a marqué ou lequel vous avez suivi plus particulièrement?
Peut-être qu'il lit pas mes BD.
On va voir ça tout de suite. On va voir ça, sa réponse.
Bonne question. Non. D'abord, bon, je connais tous les héros. Jamais j'ai essayé de m'identifier.
Non, mais c'est pas de s'identifier. C'est celui qui vous a marqué, que vous avez vraiment suivi. Enfin.
Écoutez, je sais pas. J'ai surtout suivi au début parce que j'avais les albums gratuits, quoi.
Ah, ouais, d'accord.
Voilà, non, c'est pas un fan, c'est tout, quoi.
Beaucoup de personnages récurrents, mais le premier, c'était Malabar.
Ah non, arrêtez avec ça.
Mais c'est vrai, vous dessinez.
Non, mais alors, ça,
vous
ça va être,
des vignettes,
c'est comme les comédiens qui ont dit, je vous ai vu dans la publicité pour Nescafé, vous êtes formidable. Je veux dire, toute ma vie, j'ai fait de la BD. Le seul truc qu'on m'a imposé dans ma vie, c'était Malabar. C'était une page débile, mais tous les mois, avec des scénarios à pleurer, quoi. Et maintenant, ils ont sorti un bouquin sur Malabar et tout le monde me
dit, c'est génial. Parce que, c'est comme ça que je l'ai vu, justement, que vous étiez.
Quand il y en a marre, il y a Malabar. Je vous le dis, moi.
Juste une dernière question sur Malabar, parce que quand j'ai vu ça, je me suis posé plein de questions. Est-ce qu'il y avait un comité de lecture, par exemple?
Mais oui, mais alors c'était horrible. Alors, les scénarios n'étaient pas de moi, mais il y avait des petites vignettes qu'on avait fait avec un autre, une sorte de scénariste. Ouais. On avait fait des petites vignettes pour les chewing-gums. Et donc, il y avait juste une petite histoire, mais sans bulle, sans texte. C'était une histoire comme ça qui devait être drôle. Et là, on était passé devant un jury d'enfants.
Ah, c'est des enfants?
Oui, des enfants, pour voir comment les enfants réagissaient. Mais alors, les enfants, ils étaient investis d'une mission.
C'est
donc ils avaient 10 ans, c'était l'enfant du DA, le fils du directeur artistique. Donc il était oui, je pense que cette case peut peut-être déranger un enfant de 13 ans. T'as envie de lui foutre des claques, je lui dis, toi, ça te plaît pas. C'est horrible.
Ça, c'était le milieu de la BD. Dès le milieu de la BD, vous aviez déjà votre trait. Le trait est arrivé très vite, le trait Marjorin.
Non, pas tout
le
à trait, fait. Très oui, plein. Alors j'avais déjà le gros nez. Ça, j'ai toujours fait dessiner des gros nez. Donc c'était la BD d'humour. Mais je dessinais avec des plumes. Et la plume, c'est très fin, ça accroche. Donc j'avais un trait un peu raide. Et pour compenser cette raideur, je faisais des milliards de détails, des petites hachures partout, des trucs, un truc de fou, quoi. Et après, je suis passé au pinceau et mon trait s'assouplit, c'est devenu plus rapide, plus enlevé.
Et vous, Kent, comment était votre trait? Vous aviez une signature particulière dans le dessin?
J'ai cherché mon style déjà parce que un bon moment parce que je faisais pas que de la BD donc c'était un peu plus lent d'évoluer et au début je pense que c'était pas très précis mon style, mon trait. Je travaillais au feutre, moi j'étais pas très
ça
pas très plume
mal, ça.
Voilà, ça vieillit mal. Et par contre, je suis passé effectivement après à la plume et au pinceau et je me suis arrêté au moment où franchement je dessinais vachement bien.
Et aujourd'hui, vous continuez un petit peu ou pas du tout?
J'aimerais continuer, en fait.
Parce qu'il y a eu des va-et-vient entre la musique et le dessin dans votre parcours.
Oui, la dernière fois où j'ai vraiment fait de la bande dessinée, c'était pour mon livre disque L'Homme de Mars, puisque c'est une histoire chantée avec des chansons et aussi dessinée. Donc, j'ai fait la partie dessinée aussi. Et j'ai vraiment apprécié ça, mais je n'arrive pas à me motiver, j'arrive pas à trouver un scénario qui me motive, voilà, pour m'y remettre franchement.
Beaucoup de chanteurs qui font de la bande dessinée. Il y avait Hubert Mounier, Carlos Trio, qui était vraiment un excellent dessinateur. Et puis il y a pas mal de dessinateurs,
de dessinateurs
comme Charles Berberian qui fait de la musique.
Qui fait de la musique. Voilà, il y a vraiment des passerelles. C'est pour ça qu'on a même organisé des concerts de BD et de rock. Juste une question par rapport à votre dessin. Parce qu'au départ, la bande dessinée n'est pas arrivée tout de suite. Vous avez fait les arts appliqués, c'est ça?
Oui, j'ai fait les arts, mais j'avais 16 ans. J'étais viré du lycée. Il fallait bien que j'aille quelque part. Donc, je me suis présenté.
Bien formé avec.
Oui, j'avais comme un concours d'entrée. Je suis pas rentré par hasard, mais j'étais content d'y être. J'ai appris plein de choses, des choses très classiques.
Qui vous ont servi ensuite pour la bande dessinée?
Toujours, oui, bien sûr.
Par exemple,
la perspective, mais on faisait même de la sculpture, on faisait tout aux Arza, donc tout est utile. Je crois qu'il n'y a rien qui est vraiment super. J'ai fait beaucoup de dessins de la lettre aussi. J'étais pas très bon, mais ça m'a quand même aidé.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des choses qui résistent dans le dessin? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous n'aimez pas dessiner?
Oui, énormément de choses. Il y a des jours où tout ce qui réalise déjà, je sais pas. On dit faites-moi une belle femme. Bon, je fais une femme qui est belle pour moi, mais elle fait rire tout le monde, quoi. Ça, c'est clair. Mais les voitures, les machins, tout ça, ça m'amuse pas trop à dessiner.
Ça veut dire que vous seriez condamné donc à la BD du comique? Bah,
je suis grogné. C'est le style, c'est un style, voilà, style grogné. Oui, bah, en fait, c'est comme la voix, comme l'écriture. On a ça, et puis après, je peux prendre une petite voix, mais au bout d'un moment, ça va me fatiguer. Toi. Donc, l'écriture, c'est pareil. Enfin, le dessin, c'est du grogné et puis de l'humour. Si on me demande de faire un truc réaliste et pas drôle, là, je vais déprimer, c'est sûr.
Vous êtes déjà dessiné, vous? Vous avez fait des autoportraits?
Alors, on me le demande de temps en temps. J'ai essayé, mais c'est horrible. Ça, je ne sais pas faire. Ça fait partie des trucs que je ne sais pas faire.
Je veux une Harley, qu'un cas requinqué, c'est chez Dargo. On revient sur la suite dans quelques instants. Tout de suite, la musique, l'instant V, le dernier de la saison avec vous, Valérie, et notre invitée, Théodora.
Voilà, je l'adore. Elle a sorti son deuxième EP, Obsession, au mois de mai. Souvenez-vous que j'étais obsédée assez rapidement et je l'ai passée dans la mixtape. Alors, ça continue. Qui est Théodora? Elle est bassiste. Elle est venue dans le nouveau rendez-vous avec Barba Gallo et Clara Luciani dernièrement. Et dans une autre vie discographique, elle faisait partie du trio folk rock Theodore, Paul and Gabriel. Elle est assez réservée dans la vie, en tout cas avec moi. Mais dès qu'elle joue son instrument de prédilection, ça danse. Sur Obsession, on voit un côté peut-être un peu plus dark. C'est sans doute dû à sa voix filtrée, à la transe de certains morceaux et au son électro. Sur le premier titre, Theodora chante « Get obsessional with someone », soit obsédé par quelqu'un. Laurent, je voulais vous avouer ce soir.
Bien sûr.
Vous m'obsédez.
Oui, oui.
C'est pas vrai. Je suis obsédée par le morceau. Théodora, dans le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Get obsessional with someone. Get obsessional with someone. These lines define who I am. Every struggle means you are alive. Every failure leads you to the next one. And every victory makes you shine. Get obsessional with someone. Obsessional with someone. Hold these lines to find who we are. Every struggle means you are alive.
Pittsburgh aux machines et claviers. Zoé aussi commence à être une régulière dans l'émission, souvent à la batterie. Et même Christophe Borsier avait une souris pendant la chanson.
Oui, j'ai souri. J'ai souri,
et ça veut dire qu'il l'aime. Et c'est très rare pour lui, je peux vous dire, Théodora. Alors, question, évidemment, au téléphoné, êtes-vous obsessionnel ou c'est juste une question de titre?
Oh, je suis légèrement obsessionnelle.
C'est vrai?
Ça se traduit comment?
Ça se traduit dans la musique, justement. Enfin, j'ai trouvé ce moyen-là, justement, de le transposer quelque part et de ne pas être complètement obsessionnel de plein fouet tout le temps.
Ouais, ça
vous... Je suis un peu moins, du coup.
Ouais, ça vous réussit bien. Alors, vous avez fait deux albums solo avec deux albums avec les trios Theodore, Paul et Gabriel. Vous êtes à votre deuxième EP solo. Sentez-vous que vous avez déjà vécu 10 vies dans votre jeune vie, 2 vies musicales, où c'est chaque chose, c'est début de...
Disons que j'ai une vie en tant que bassiste qui continue, et ma vie en tant que chanteuse et productrice de musique est assez neuve. Ça fait 2 ans à peu près.
D'accord. Et
tout est à faire, tout est à apprendre encore.
Je suis ravie que vous continuiez avec la basse, parce que je vous ai déjà dit 1000 fois, j'adore quand vous regardez et vous écoutez jouer la basse, vous continuez à tourner avec Barba Gallo. Alors imaginez-vous abandonner ça, ou c'est vraiment deux choses que vous voulez continuer à faire?
J'aimerais pouvoir le faire toute ma vie. Enfin, c'est mon cœur de métier, c'est quand même la basse.
D'accord.
C'est à la base de tout, même de la musique que je fais, je pense.
Le deuxième titre s'appelle Step into Disorder. Il a été écrit avec Sage.
Oui.
Alors, vous vous souvenez de Sage, Laurent?
Oui,
j'adore ce qu'il fait.
Alors,
est-ce que vous comptez retravailler avec lui? Parce que moi, j'ai entendu qu'il prépare un nouvel album qui est vraiment très différent que ce qu'il avait fait jusqu'ici. Est-ce que vous en êtes responsable? Est-ce que vous travaillez ensemble aussi?
Je ne suis pas responsable de son nouveau disque, mais c'est vrai qu'on commence à collaborer ensemble sur des nouvelles chansons. Et c'est vrai que ça influence un peu ce que je fais. C'est très intéressant.
Et vous avez-vous une influence quand même sur lui?
Et ça, je ne sais pas encore. Ça fait pas si longtemps qu'on se connaît. Donc, il avait déjà fini ses chansons avant de me rencontrer. Ça fait que 6 mois. On s'est rencontrés, on s'est beaucoup appréciés. Et on a décidé de faire une chanson ensemble. Donc Step into Disorder. Et ensuite, naturellement, on continue.
Bon, c'est fabuleux. On est absolument ravis.
Quoi va parler justement la chanson qu'on va écouter?
C'est une sorte d'appel à embrasser... ses propres failles et d'en faire une force, justement.
C'est le désordre. Step into Disorder, ce soir avec Theodora, dans le nouveau rendez-vous sur France Inter. Et il se prépare parce qu'après, je crois que ce que... Alors, tout à l'heure, vous étiez tout à côté de l'une et l'autre. Zoé, vous allez retourner tout près de Théodore. On peut vérifier tout ça sur le Facebook Live aux images Sandrine Laurent.
Step into disorder, step into disorder. Hold on to your nature, hold on to your nature. Said it wouldn't last, and it never came so fast. Hold on to your nature, hold on to your nature. Step into disorder.
Don't love you, but I try. Don't love you.
fait Obsession est disponible, vous avez toujours pas de maison disque?
Toujours pas.
Oh bah ça va arriver très très vite. Prise de sang, Serge Viguier, Eric Morin et Alexandre Chenet.
Une programmation de Marion Guilbeault.
Le nouveau rendez-vous.
Si c'était à refaire, je vendrais des vipères pour des couleuvres. Je bétonnerais les fleuves. Je pendrais les oiseaux haut et court à la plus haute branche. Et je mangerais du panda à tous les repas.
Sur France Inter.
Si c'était à refaire, quelques mots de cette nouvelle chanson en forme de testament pour ouvrir ce plateau avec vous, Kent. Vous signez un nouvel album, La Grande Illusion, sous le label indépendant Atome. 10 titres travaillés par un sens aigu du passé, de la mélancolie. Si c'était à refaire, l'heure des adieux, un revenant. Et puis il y a même des expressions justement qui reviennent d'une chanson à l'autre. Dans un revenant, on lit « Tous les matins, quand il refait surface, un étranger l'observe dans la glace. Malgré ses 10 000 ans, il fait moins que son âge. » Et dans La Grande Illusion, on entend ça.
Tu ressembles à une photo de vacances, un horizon dans le regard. J'ai 5 000 ans sur le dos et j'avance le long des murs dans ton brouillard. Plus je t'approche, plus je m'égare. J'aurais dû au moins avoir la décence d'un élégant fondu au noir. Mais je suis resté dans le plan séquence, dans l'intention de te revoir.
10 000 ans pour un revenant, 5 000 ans sur le dos pour la grande illusion. Ça va, Kent?
Oui, ça va très bien, ça va très bien. Oui, donc vous voulez l'explication sur les
10 000 ans, les 5 000 ans d'une chanson à l'autre. Ouais.
Parce que j'aime bien cette image qu'on a sur le dos, le poids de non seulement de notre âge, mais de l'âge de la civilisation. Voilà, que c'est parfois pesant. Et dans le cas de j'ai 5 000 ans sur le dos et j'avance, c'est vraiment la personne dans la chanson, c'est quelqu'un qui se rend à un rendez-vous, qui est désabusé sur l'amour et tout ça. Donc il y a cette idée qu'il croit tout connaître sur l'amour et il a beaucoup lu, ou beaucoup appris, ou beaucoup vécu. Et voilà, donc il y a cette sensation de vivre l'amour comme ça lui a été, il se l'a appris lui-même, quoi. Dans le cas du survivant, c'est plus une histoire de poids, je dirais, quoi. C'est l'histoire de quelqu'un qui se réveille dans un hôpital après dans ce cas-là, dans la chanson, c'est un attentat, mais ça pourrait très bien être un accident. Mmh. Et il se voit et il doit repartir dans la vie avec sa vie qui a complètement changé et c'est un vrai poids, ce passé.
C'est bizarre parce que vous dites le survivant, et en fait le titre de la chanson c'est un revenant.
Oui, mais c'est un survivant.
Oui, mais c'est un survivant, ouais. En rapport bien sûr avec les attentats, ouais, du Bataclan. C'est, ouais, une chanson que vous avez écrite
Pas seulement du Bataclan, c'est tout ce qui s'est passé pendant cette année assez terrible 2015, où il y a eu plein d'attentats, ouais. Et donc on a parlé beaucoup des attentats,
des victimes,
et dans les victimes on a surtout parlé des morts, on n'a pas parlé des survivants. Voilà. On a très peu parlé des gens qui ont été blessés, on ne sait pas à quel degré. Ceux-là, ils sont dans une espèce de no man's land. On ignore tout d'eux aujourd'hui encore, comment ils vivent ça. Et c'est pourtant eux, ils sont encore là, quoi. Ils sont encore là avec leur vie d'avant, leur vie d'après, cet instant-là qui est tout bouleversé, quoi. Et qu'est-ce qu'ils font avec ça? D'autant plus que pour certains, chaque matin, quand ils se lèvent, ils se rendent bien compte qu'ils sont différents, quoi.
Alors, on va revenir sur cet album, mais d'abord, retour en arrière, parce que Christophe Poussé nous a dit, si vous avez Kent, il faut parler de Star Shooter, donc on va en parler. Oui. Surtout que cet album ponctue 40 ans de carrière, hein, puisque Star Shooter, ça commence en 77. Avec ça, il y a 40 ans.
Je suis le poissonneur régulant, le type pour croiser qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, trop de croisières. Pour que l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du rideur du geste. Et dans ce bouquin, il y a écrit que dégage la coudisse à Miami. Pendant ce temps que je fais le soir, on prend une corbe. Pareil qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des
Marjorin, vous vous souvenez de cette cover de Gainsbourg?
Très bien, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il fallait abattre à l'époque? La chanson française avec, en reprenant sur un rythme plutôt punk
On adorait cette chanson et Gainsbourg et notamment cette chanson. On voulait justement se l'approprier et puis bon montrer que la filiation en quelque sorte, parce qu'on était un groupe de rock, mais bon, qu'est-ce qu'il y avait de rock en France dans les années 70 à cette époque-là dans le texte. Donc il y avait ce texte-là que je trouvais génial, quoi.
Gainsbourg l'a apprécié
beaucoup.
Ah, il vous en a parlé?
Oui. Ouais, ouais, il m'en a parlé. Je me souviens bien, il était très, très peu parlé parce qu'il était tellement ému qu'il était un peu voilà, sans voix, quoi, mais il était très, extrêmement touché. Quoi.
Alors on saute 20 ans, 98, l'album Métropolitain avec un son très sophistiqué.
C'est ni un parti, ni un peuple, c'est pas une punition non plus. C'est un passage en pleine vie, avant de faire avec son âge. C'est de l'innocence qui s'ignore, déjà cadré dans les sondages. De la révolte en petite coupure dans tout un secteur commercial.
Je voulais qu'on revienne sur cet album parce qu'il est à l'origine aussi d'une certaine façon de ce nouvel album, on va en parler. Comment cet album Métropolitain a été perçu à l'époque ?
Très mal. Très mal par les gens qui m'avaient inscrit dans le registre chanson française, évidemment, puisque c'était effectivement, je ne peux pas le renier, et puis je n'ai aucune raison de le faire. À cette époque-là, j'étais dans le renouveau de la chanson française, j'étais reparti sur les bases de cette chanson qui était un peu à dépoussiérer, je trouve, notre country à nous, quoi, en quelque sorte. Et donc je me présentais sur scène avec accordéon, contrebasse, et tout ça.
Très bien, ouais.
Mais ce que je me rendais compte, c'est qu'on pensait que ma vie, c'était à 100% ça, c'est-à-dire que j'écoutais tous les soirs Léo Ferré et Barbara et que j'allais voir que des concerts de ce genre. Or, j'écoutais à peu près tout et que à cette époque-là, il y avait aussi cette explosion électro qu'il y a eu en France, qui était géniale, mais absolument géniale, quoi. J'ai passé des nuits formidables à aller voir des groupes et c'est ce qui m'a inspiré cet album. Et j'ai eu envie de le faire parce que j'écrivais spontanément des textes pendant ces concerts-là et je suis rentré en studio une semaine avec des musiciens, on a improvisé cet album, et j'ai sorti la maison de disques était un peu partagée, on va dire. Hein.
Il y avait... Non, parce que le son était très particulier par rapport à ceux qui s'attendaient à avoir un énième groupe, enfin un énième son rock ou même chanson française de votre part. Hein.
Mais c'était pour montrer, ben voilà, pour être honnête, dire voilà, Kent, c'est aussi ça.
Voilà. Au risque d'être un peu caméléon, non, quand on change de style musical comme ça.
Mais un caméléon, je sais pas, moi c'est de la curiosité, quoi. Je sais pas ce que ça veut trop dire là, pour moi, pour ma part, mais je suis curieux des choses. Il y a des choses qui m'inspirent, donc il n'y a pas de raison que je me prive, sous prétexte que ça m'inspire et que j'ai une image, que je me prive de m'exprimer. Voilà. Donc je m'exprime.
Alors, cet album Métropolitain, donc, qui a été mal perçu à l'époque, vous l'avez repris en juin 2015 sur scène.
Oui.
Que s'est-il passé là pour que aujourd'hui, le nouvel album soit, non pas dans cette filiation, mais quelque chose ait pu se réamorcer?
C'était un concert spécial au 104 pour fêter justement le
104 à Paris.
Au 104 à Paris, ouais, parce que on sortait l'intégrale de mes albums studio, ouais. Et j'ai interprété ce soir-là les albums les plus éloignés justement dans les styles. D'un côté Tous les hommes, qui est justement très chanson française, et je l'ai fait à ce moment-là juste en piano-voix parce que j'étais en tournée avec mon pianiste Marc Haussmann. Et puis la deuxième partie, je voulais que ce soit cet album que j'avais jamais joué sur scène, Métropolitain. Et là, j'ai voulu prendre des musiciens qui étaient sensibles à cette musique-là, mais d'aujourd'hui, quoi, pas de les musiciens avec qui j'avais enregistré à l'époque.
Et, des pointures de l'électro d'aujourd'hui, quoi.
Voilà,
Tahiti Boy,
voilà, je me suis renseigné et j'ai fait la connaissance de Tahiti Boy avec qui je me suis très bien entendu.
Bah, c'est lui qui a produit, enfin qui a réalisé cet album.
Et c'est suite à ce concert-là, avec les musiciens avec qui j'ai fait ce concert, que à la fin j'ai dit, mais ce serait bien qu'on fasse un album ensemble. Et l'idée de départ, c'était, tu as entendu la première partie, t'as joué la seconde, je dis ça à David Stank, notre Tahiti Boy. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse un album qui relie les deux. Voilà.
Dans quelle période, puisque Bourseiller parlait de caméléon, on peut parler de période chez Kent. Il y a des périodes plus particulières qui vous ont marqué?
Je me souviens d'un titre qui s'appelait Tini Tinto. J'aimais beaucoup, une ambiance un peu indienne.
Ouais.
Puis partout, c'est la merde, bien sûr. Un gros tube. j'ai suivi Ken de loin, loin et de près en même temps.
Donc aujourd'hui, on retrouve une petite veine électro. C'est Tahiti Boy qui a réalisé l'album. Quel son il vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez écouté ensemble pour trouver des pistes de travail, Kent, avec Tahiti Boy?
Qu'est-ce qu'on a écouté ensemble? On s'est beaucoup parlé de musique actuelle, en fait, des groupes comme TV on the Radio, par exemple, où il y avait l'album qui nous marquait à ce moment-là, c'était aussi l'album qui a fait Costello avec le groupe The Roots, qu'on trouvait vachement bien, parce que Costello est un songwriter qui a un univers très large. J'aime bien le citer aussi en exemple. C'est un aventurier, tout comme moi, quoi, de la musique. Il rencontre un musicien qui lui plaît, il va faire le disque avec lui, voilà, quoi. Donc il y avait ça, et puis après, ce que m'a apporté David en studio, c'est un regard qui est pas du tout désabusé aussi sur la musique, parce que le problème dans ce métier-là, c'est que quand on continue, comme c'est mon cas, c'est important de se renouveler aussi et d'avoir un regard neuf. Et le regard neuf, on l'a pas en côtoyant les gens de sa génération, malheureusement, parce que beaucoup sont nostalgiques. Or, je ne le suis pas, contrairement à ce que tu as pu...
Mélancolique, c'est pas du tout la même chose. Il y a une mélancolie, il n'y a pas de nostalgie. Voilà, j'ai pas du tout prononcé le mot nostalgie. Je l'ai pas dit nostalgie de toute la...
Ah bon, d'accord, non, j'ai cru l'entendre au début.
Véritablement, mais une mélancolie dans le truc.
Non, je préfère, oui, je revendique la mélancolie, mais la nostalgie, alors pas du tout. Et voilà, j'essaie de... C'est même pas que j'essaye, c'est naturel, je n'y vais pas, quoi.
Quand vous avez eu dans ce parcours, donc, des albums qui ont été moins bien reçus, est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé que vous pourriez arrêter, Kent?
Oui, mais je le pense encore, encore maintenant, quoi. Pour d'autres, enfin, je pensais pas arrêter parce que j'avais un album qui était mal reçu. Je pense arrêter parce que je sais pas quoi dire. Voilà, je viens de finir un album et après je sais pas quoi dire et avec qui le dire et comment le faire, et c'est ça mon problème aujourd'hui, quoi, ne pas me répéter, parce que quand même après une vingtaine d'albums, ah oui, c'est difficile, quoi, de raborder toujours un peu les mêmes obsessions. On lutte avec ses obsessions, je pourrais dire, comme Théodora, quoi. Et donc faut pas se répéter là-dessus, et puis se renouveler, voilà. Et ça, moi, depuis une dizaine d'années, quand je sors de studio après un album, je me dis c'est le dernier, je vois pas ce que je vais faire après. Et je suis un peu dans cet état-là aujourd'hui. J'ai fait un album, je dis bon, c'est le dernier.
Ça, c'est la page blanche que beaucoup d'artistes ressentent.
Je ne l'ai pas ressenti longtemps, et là, depuis quelques temps, c'est assez flagrant.
C'est quelque chose que vous pouvez ressentir aussi?
Oui, pareil, à chaque album, je dis bon, qu'est-ce que je vais raconter maintenant? Puis les choses viennent comme ça, c'est magique. C'est magique, ouais. On ne sait pas pourquoi. Ouais.
Eh bien, c'est la grande illusion. Ça paru sous le label indépendant Atome, et puis on vous retrouvera, Kent, sur scène le 15 juillet au Francofolie de La Rochelle.
Non, j'en fais une joie, oui.
Et bien, vous restez avec nous tous les deux tout de suite. C'est la mixtape de Vali. Oui, tous les jeudis, depuis le début de la saison, Vali, décrypte et annonce le meilleur des albums à venir. Bah, ça peut être le lendemain, ça peut être dans le mois et dans l'année. Là, c'est pour l'été et la rentrée, Vali.
Oui, et c'est l'été, les tubes s'imposent. Stop. Pas de sexe on the beach.
C'était pas mal,
dans
mais
mes
ça
titres.
M'a
bien que ce titre de Johnny est assez charmant,
ouais,
je le dis. Non, ce soir, Laurent, c'est plutôt un mélange de ce qui sort pendant l'été et quelques albums qu'on va entendre à la rentrée. Le plus près de nous, c'est Lompal.
Un gros mot qui dérape en coup de poing. Un bisou qui dérape en le vrai. T'aimes te battre quand tu sors. Mais même si t'as le regard de Réliota. Ton corps peut finir en désordre, comme les phrases de Maître Yoda. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue, oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue, oh non, bientôt ça me fait plus d'effet.
Alors, pour moi, ça s'appelle un tube, hein. Le français chante Ray Liotta. Vous vous souvenez de ce merveilleux acteur? C'est sur son premier album Flip qui sort demain. On dirait qu'il sort de nulle part, mais que nenni. Lompal a déjà 4 EP à son actif. 15 millions de vues sur sa chaîne YouTube, et il a placé un titre dans le film des pannes de Jack Audiard. Et pour ce disque, c'est les producteurs de Phoenix, Nekfeu and the Shoes. Il s'appelle Lompal. Alors attention, autre gros coup de cœur.
Squeak,
Alors quand on parle de la ville de Seattle, on pense plutôt à la musique grunge. Shabazz Palaces change la donne. C'est un duo, donc Palisir Lazaro, ex-membre du groupe jazz rap Digable Planets que j'ai adoré dans les années 90. C'est un flow cool monté sur des collages de sons. C'est chill, c'est sexy. J'aime. Pour info, Shabazz Palaces sortent deux albums, leur troisième et le quatrième le 14 juillet sur le label Sub Pop. Quasars Born on a Gangster Star et Quasars versus the Jellish Machines. And now for something completely different. And Love Affair Controller, ça sent l'été, mais l'album Omnion sort le 1er septembre chez BMG. Le groupe sera rock en scène le 25 août à Paris, donc c'est quelque part l'été. Sur ce titre, c'est Faris Badwan qui fait le featuring, ce qui me donne une super transition, car c'est le chanteur de The Horrors qui sort un album le 22 septembre et dont on va écouter un extrait dans quelques secondes.
Parmi tout ce que l'on a entendu, est-ce qu'il y a un son qui vous a plus particulièrement marqué ou que vous avez retenu, Kent? Dans les trois
Non, pas encore.
Pas encore. Bon, on attend le dernier. Ah. Et vous, Marjorin?
Écoute, ça met dans un état comme ça. Je suis bien, mais après, c'est difficile d'analyser vraiment.
Quand je dis pas encore, c'est parce que j'ai un esprit d'escalier. Je vous dirai ça demain.
Parfait. D'accord. On va vous appeler.
Et il reste un titre quand même. The Horrors sont de retour avec leur cinquième album qui sort sur le label Wolf Tone. C'est le label de Paul Epworth, producteur d'Adele, London Grammar, Coldplay, Paul McCartney, j'en passe, elle est les meilleurs. Je ne sais pas si c'est son influence qui a changé le son des Horrors, qui nous ont habitués au rock garage ou au shoegaze. Là, il s'ouvre au son et rythme plus trance, plus dense et assez années 80. Le mot d'ordre, pas de carrière définie et prévisible. Et ça me plaît plutôt. L'album V, ça se revente pas, V en français, The Horrors, sort le 22 septembre sur le label Wolf Tone.
Merci Vélie, le énervé, première partie c'est fini. Merci Kent, merci Marjorin, merci, on va tous se retrouver dans 15 minutes, je dis bien tous, on va faire l'appel. Vélie, c'était votre dernier instant V, je vous souhaite un bel été, vous partez quelques jours aux États-Unis?
Oh bah bien sûr, je vais aller voir Trump, en fait il vient le 14 juillet, je reste à Paris, que dis-je?
Mes amitiés à votre président. Nous on revient dans 15 minutes pour la toute dernière partie du énervé saison 2016-2017, au programme.
Bah, je vous fais juste cette petite vidéo pour vous expliquer comment mon rendez-vous ça s'est passé.
Eh bien, l'année, ça s'est bien passé. La preuve, on refait l'année, on laisse les clés. Le rendez-vous est pris. Alors, à tout de suite.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous? Qu'est-ce que vous faites ce soir?
Ce soir?
Oui. Rendez-vous?
Bonsoir à toutes et à tous, c'est le énervé la suite et le énervé la fin. Christophe Boursier est exsangue, Benoît Lagan qui nous a rejoint, alors c'est même pas son jour, mais que l'ombre de lui-même. Et je ne vous parle pas de moi, je ne me reconnais pas, mais ça c'est une bonne nouvelle. Alors ce soir on dépose tout, surtout le bilan de cette année, un rebondissement, une vraie série télé scénarisée par un script docteur un peu dingue, puisque tout ce qui avait été prévu n'a pas eu lieu. Cette année, 4 fois par semaine, on a observé, discuté des tas de sujets divers et variés, comme on dit, alors que c'est dire absolument la même chose, des sujets énervés avec des clubs de passionnés. Et pour la dernière, on a voulu retrouver 4 personnalités culture média pour jeter un œil dans le rétro, entre coup de griffe et coup de cœur, 3 temps, une vie politique en France, une vie politique à l'étranger, une saison culturelle. Le énervé et la rétro, ce soir, c'est avec Jean-Jacques Benex, cinéaste et metteur en scène. Bonsoir.
Bonsoir.
Virginie Roels, romancière et directrice de Cosette. Bonsoir.
Bonsoir.
Mickaël Prazan, documentariste, bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin Guillemette Audicino, journaliste à Télérama, productrice à France Inter, puisque à la fin de l'émission, on vous laissera les clés du studio, puisqu'à partir de mercredi, vous animerez nos soirées sur France Inter avec On se fait des films.
Bonsoir. Et c'est gentil de me laisser les clés. Je vous les rendrai. Bien
j'espère
propre.
J'espère bien. En revanche, le studio n'aura pas le temps de balayer. Le NRV, la suite. Saison finale, clap.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et vous aussi, vous avez fait le bilan, j'imagine, Christophe Bourseiller.
Oui, ça fait drôle hein, de faire son dernier éditorial de l'année, enfin bon bref, de la saison en tout cas.
De la saison,
ça pourrait
oui.
s'appeler « Ce que les voyants n'ont pas vu hein, ». Ouais. Voilà, j'ai une proposition de titre que je vous fais de façon comme ça un petit peu extrémiste. Je vais vous faire une confidence, Laurent,
oui. hein,
c'est le thème de là. Donc j'admire les complotistes. Pourquoi ? Parce que voilà des gens qui trouvent une explication à tout. Et surtout, c'est ça que j'aime bien chez eux, pour eux, le hasard n'existe pas. Il n'y a aucun accident de la vie. Pleut-il, c'est la faute d'un dispositif secret qui réchauffe la planète. Quelqu'un trébuche-t-il, il a été poussé par une impulsion électromagnétique liée à un implant dans son cerveau, et ainsi de suite. Tout est prévu, ordonné, planifié par les maîtres du monde qui tirent les ficelles, nos ficelles. Or, Laurent, il faut bien le reconnaître, l'année scolaire, pour dire c'est un peu ça dont on parle, oui. l'année scolaire que nous venons de vivre, est un défi à tous les complotismes. Alors, souvenez-vous, Laurent, tout le monde prévoyait, par exemple, l'élection d'Hillary Clinton. Les complotistes ajoutaient que c'était la candidate rêvée de l'oligarchie. Mais c'est le baroque monarque Trump qui s'est retrouvé sur le trône de l'Empire. Et les Anglais semblent vouloir marcher main dans la main avec l'étrange souverain peroxydé qui fait à la fois rire et pleurer. Alors, en France, c'est le gros délire. Il y a un an, jour pour jour, tout le monde pensait que l'élection présidentielle se jouerait entre Alain Juppé et François Hollande. Alors certains disaient « Non, je suis pas d'accord, le combat final opposera plutôt Manuel Valls à Nicolas Sarkozy ». Et nous voici avec Emmanuel Macron qui a réussi à endiguer d'ailleurs la vague lepéniste. Alors de quoi demain sera-t-il fait ? J'en frémis à l'avance. Sur le plan de la culture, on voit les romanciers se transformer en journalistes ou alors interpeller les hommes politiques. Le théâtre patauge, fait du surplace en s'enlisant dans les redites ou la démagogie. L'art contemporain se fragmente en chapelles codées, voire indécryptables. Et si l'on met de côté quelques cinéastes, tels François Ozon ou Olivia Sayas de cette année, on voit réapparaître la bonne vieille comédie péténiste en version potage boutonneux. Bref, le monde va mal. Le monde va mal, mais il est plein d'espoir, ainsi qu'en témoigne un des hommes politiques les plus juvéniles du moment, Jean Lassalle, qu'on écoute dans un discours emblématique à propos du permis de conduire.
Lorsque vous passez le permis de conduire, comme c'est le cas chez moi, c'est au bout de 30 mois. Mais 30 mois, c'est assez long, hein, je peux vous dire. Quand vous devez prendre l'avion le matin à 4 heures du matin avec un voisin qui vient vous amener, et la femme vient vous rechercher 3 jours après, à 11h30 du soir, c'est long. Mais pour nos compatriotes, c'est très long aussi. Alors, quand enfin vous avez fait les 30 mois, vous passez des tests psychotechniques. Je peux vous le dire parce que j'ai dû m'y reprendre 3 fois. Le problème, j'avais un QI juste au-dessus très légèrement de zéro. Mais enfin.
Merci, monsieur le député.
Et oui, c'était à l'Assemblée nationale il y a quelques mois, c'est la vérité. Même les vieux prônent aujourd'hui une forme de changement radical. Alors c'est vrai qu'on vit en ce moment une espèce de grand bouleversement dans la vie politique, avec l'élection de Macron, l'arrivée de toutes ces nouvelles têtes. Ce que nous vivons, Jean-Jacques Benex, vous l'interprétez comment ? C'est positif, c'est vivant ou c'est une farce ?
C'est une farce, mais c'est une farce effrayante, parce que on sort de toute structure qui soit fondée sur la réalité. On est dans le caprice, dans l'écume, dans le détail. Regardez la cravate. C'est la révolution, la cravate. Mais
c'est la révolution parce qu'on ne met pas une cravate pour aller à l'Assemblée, c'est ça ?
Oui, mais c'est puéril. Enfin,
qu'est-ce qui est puéril ?
Mais ce geste est puéril. C'est un gandin. Il n'y a pas un mec qui est plus gandin que lui, plus habillé, plus apprêté. Et tout d'un coup, on ne met plus de cravate parce qu'on est révolutionnaire. Alors que
il a tout le temps une cravate, y compris devant tous ces mecs qui n'ont pas de cravate, qui sont garde à vous derrière, et lui, il avait son petit col serré, etc. Bon, c'est un détail, mais quand on est autant dans le, comment dire, dans le signifiant, et quand on est un leader maximo, je trouve ça grotesque. Grotesque comme ce qui se passe aussi avec le PR à Flamanville, où on va donner l'autorisation d'utiliser une machine qui est normalement le nec plus ultra de la technologie nucléaire. Hein. On est champion du monde du nucléaire. Et le culot de ce machin en acier et le sommet, le couvercle, ne correspondent pas aux normes. Normalement, il doit y avoir 0,2 de carbone, il y en a 0,3. Et alors, ça modifie complètement la résistance, enfin, tous les critères de résistance de l'acier. Et c'est soumis quand même à des pressions monstrueuses, à des chaleurs, etc. Et c'est du nucléaire. Et tout ça vient parce qu'il y a une société qui s'appelle Areva, qui est un véritable scandale, une affaire d'État, où il y a des gens qui ont bazardé des milliards. Et un gouvernement français qui, pour garder la filière nucléaire française, a maintenu à flot un navire qui était en train de couler, sans remettre pour autant l'intelligence des ingénieurs nucléaires français. Mais c'est le management politique qui est effrayant. Et alors dans une totale impunité. Enfin là, c'est en train de sortir, hein, ça fuit. Là.
C'est en train de sortir. Virginie Rowells, vous, qu'est-ce qui vous a plus particulièrement marqué cette année au niveau de la politique française, l'accession de la société civile aux commandes?
Alors oui, j'ai l'impression que, enfin, l'accession d'abord, on nous a fait rêver avec ce mot de société civile. On l'a ressorti des placards, ça nous a fait rêver. On s'est dit, c'est génial. Il y a une agricultrice, une infirmière, un acune, donc on l'a mis en valeur à l'Assemblée parce que qui vont venir, qui vont changer la donne, qui seront, qui laveront plus blanc que blanc, qui auront aucune casserole. C'est juste dingue, quoi. C'est depuis la Révolution, comme Danton, Robespierre. Et en fait, non, quoi. Je trouve que le réveil, ça y est, on commence à sortir déjà. On commence à se réveiller. On commence à comprendre qu'en fait, non, ils sont tous cadres sup à peu près, que les femmes, certes, il y a la parité, mais que
C'est quand même des choses qui ont changé.
Oui, oui. Je crois qu'il n'y a jamais eu un renouvellement tel hein, de l'Assemblée nationale depuis 1958, grosso modo. Il n'y a jamais eu autant de femmes. Certes, c'est pas mal, mais en fait, quand on regarde de plus près, on voit qu'on leur a pas donné non plus des rôles d'aimants, qu'il n'y en a aucune qui préside un groupe non plus. Et je pense qu'on commence tout juste à se réveiller avec la société civile. Bah oui, c'est un petit peu comme disait M. Benex.
Un gadget, vous voulez dire ?
En fait, c'est une géniale entreprise de communication qui a duré pendant un an, qui nous a lavé le cerveau, qui nous a fait rêver. C'est comme une marque sur un produit cosmétique, sauf que, comme tous les produits cosmétiques, il y a du pesticide à l'intérieur, et là, on commence à en voir les effets.
Bah oui, puis en fait, ce qui est dingue, c'est que je pensais pas pouvoir dire un jour une phrase pareille, mais elle est où l'opposition ? Mais oui. Eh ben, c'est étrange, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on regrette.
Vous regrettez une opposition maintenant ?
Oui.
Vous voulez retourner au bipartisme ?
Quasiment, mais on, parce qu'on veut de nouveau qu'il y ait de l'idéologie, de la vraie. C'est peut-être un mot qui est dépassé, non, mais de la vraie.
Une pensée politique,
deux pensées politiques qui s'affrontent. Enfin, des gens qui s'affrontent.
Une multitude de partis. Il y a les Insoumis, le Front National, les socialistes, les communistes. Il y a quand même du monde à l'Assemblée.
Les constructifs.
Oui, mais ça.
Les constructifs et les anticonstructifs.
Oui, mais c'est. Pour le moment, on est quand même dans un peu un paysage ripolliné, là, pour le coup. Il va falloir que les coutures craquent.
Mickaël Prazan, vous, qu'est-ce qui vous a marqué ? C'est la désagrégation.
Comme tout le monde.
Le paysage politique.
Oui, oui, et chacun y a participé. Je veux dire, c'est faire porter le chapeau bien large à Emmanuel Macron que de penser que tout est de sa responsabilité. Si on, y a qu'à observer le naufrage de ce navire impérial qui était le PS, où tous les occupants se sont évertués à pilonner la coque et ils sont très surpris que le bateau coule. Donc il y a quand même, si vous voulez, un problème. Moi, je trouve quand même que cette élection, qu'on a suivie quand même, il faut bien le dire, passionnément, c'est quelque chose d'unique. Il y a une série à la House of Cards à faire, il y a même une série documentaire incroyable à faire à partir de ce récit et de ce scénario.
Vous vous mettez sur les rangs, vous, le documentariste ?
J'aimerais bien, mais vous savez... L'idée ne suffit pas, il faut derrière le producteur, la chaîne, etc. Et pour l'instant, j'en ai jusqu'au cou. Mais non, et moi, je trouve que ça a quand même ringardisé un certain nombre de choses. On s'est aperçu... voilà, qu'on avait quand même un paysage politique qui était calcifié, qui était là depuis 20, 30 ans. Et on s'est rendu compte aussi qu'on avait des partis consacrés qui ne pouvaient plus gouverner. Parce que l'opposition, comme vous le disiez, elle n'était pas au Parlement, elle était au sein même des partis. Donc il y avait quand même un empêchement, si vous voulez, à la base, à la racine même de ces partis-là, qui faisait qu'on n'avance pas.
Mais est-ce que l'émergence de ce nouveau mouvement, le mouvement En Marche, est-ce que ça révèle pas non plus la difficulté qu'ont eu les observateurs à comprendre ce mouvement? Parce que moi, j'ai eu l'impression que, par exemple, tous ces nouveaux venus, on les comprenait pas parce que on n'allait pas sur le terrain voir qu'il y avait sur le terrain des élites aussi qui existaient dans les villages, dans les petites villes, et que ces élites-là, elles avaient un rôle et qu'il y avait aussi des ruisseaux, voire des fossés entre une classe populaire et ces élites-là. Comme s'ils étaient... ils viennent d'ailleurs, donc ils sont le peuple.
Oui, et en plus, quelle est la relation entre... Pardonnez-moi, on parle de société civile, mais en fait, j'ai regardé de nouveau la définition exacte, voire philosophique de la société civile, que je ne vais pas vous retranscrire là maintenant tout de suite.
Vous êtes très aimable.
Je ne vais pas vous parler d'égal, mais malgré tout, vraisemblablement, la société civile, c'est en opposition avec l'État, finalement. Hein, c'est se libérer de la tutelle de l'État. Je réduis. Et quand moi, j'entends le mot société civile, comme n'importe quelle... citoyenne, moi j'entends Nuit Debout, j'entends les indignés, j'entends les économistes atterrés, et je n'en retrouve aucun aujourd'hui dans les rangs de l'Assemblée nationale.
Mis à part peut-être François Ruffin,
qui est quand même
emblématique de tout ce mouvement-là.
Il y a aussi une infirmière.
Dire que Nuit Debout, c'était la société civile, c'est quand même aussi un peu rapide. Oui. Ça a occupé quelques individus des centres-villes, et ça n'a pas porté, aucun fruit n'a émergé de ça. Moi, j'y suis passé, évidemment, en Place de la République, j'ai entendu ce qui se disait, à part une jeune mère de famille qui souhaitait le meilleur des mondes et le bonheur universel, et un type qui nous parlait de la lutte des classes sectorielles, si vous voulez, j'ai pas rempli ma besace d'idées nouvelles ou d'idées révolutionnaires, quelles qu'elles soient.
Jean-Jacques Benex, oui.
Oui, mais je trouve qu'il y a quand même des choses. On a, par exemple, nous avons gagné, ceux qui ont milité pour ça, pour le non-cumul des mandats.
Des mandats, ouais.
Et on a gagné. Et ça, c'est énorme. Alors, et c'est transversal, parce que, quel que soit le parti considéré, on n'aura plus ces surhommes qui étaient capables de gérer à la fois des villes de 300, 400 000 habitants, de revenir à Paris, d'être au Parlement, d'être en même temps conseiller de région, etc. Et qui trouvaient encore le moyen d'être président des trucs de boules et de machin. Ça, c'est quand même formidable. Et puis, il y a un certain nombre de choses. Je crois que c'est en train de s'organiser. On est en train de changer de monde. Et à travers les réseaux sociaux, etc. Il y a des gens qui se reconnaissent. On pétitionne. Oui, ça marche pas la plupart du temps. Mais on est en train de pousser un peu les choses par rapport aux nicotinoïdes, etc. On a un ministre de l'écologie. Là, maintenant, il va falloir qu'il monte au créneau et...
Il monte au créneau, hein.
Ça va, oui, mais là, il va avoir du boulot, hein.
Virginie Roels, oui.
Oui, non, mais je trouvais que justement, il monte au créneau.
Mais là, il l'a très bien fait.
Et en particulier, j'ai relevé une phrase que j'avais trouvée assez stupéfiante dans la bouche d'un ministre, en tout cas, par rapport au précédent, c'est quand il a parlé d'empoisonnement par rapport à la question des perturbateurs endocriniens.
Ce que jamais on avait entendu dans la bouche du ministre, jamais.
Jamais.
Oui,
jamais.
Je l'ai souvent écrit. Mais c'est une toute minuscule petite voix. Hein. Mais les gens qui laissent faire ces choses-là doivent savoir qu'un jour ou l'autre, ils seront poursuivis pour mise en danger d'autrui. Ça, c'est un truc qu'on n'avait jamais osé dire. Et il l'a dit, et d'autres gens le disent, et on le dit de plus en plus. Les mecs, arrêtez de nous empoisonner, d'empoisonner vos enfants, alors que vous savez parfaitement, en même temps, non-lieu probablement sur l'amiante.
On va continuer dans le meilleur des mondes possible dans quelques instants. 23h31 sur France Inter.
Rendez-vous.
Rapidement, je vais m'énerver.
Donc il va s'énerver.
Je ne suis pas d'accord avec Vladimir. Ça, c'est une question de principe et je n'y dérogerai pas. Voilà.
Ce que vous dites est scandaleux.
NRV, le nouveau rendez-vous.
Cœur de verre, celui d'Orval Carlos Sibelius. Un nom bien fantasque pour un album qui ne l'est pas moins. Ordre et progrès, et bien ça sera mon programme pour le NRV.
Elle m'a donné rendez-vous demain.
Le nouveau rendez-vous.
Tu ne voudrais pas venir avec moi ?
Sur France Inter.
Vous l'avez compris, on fait le bilan de la saison avant de rendre l'antenne ce soir au NRV avec Jean-Jacques Benet, Guillemette Audicino, Virginie Roels et Michael Prazan. On va tout de suite ouvrir sur une nomination toute récente qui a complètement bouleversé Christophe Bourseiller.
Un oui, un non, s'il vous plaît, avant de nous séparer, on est déjà en retard. Vous voulez être ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique, oui ou non ? Est-ce que ça vous tente ?
On m'a fait cette proposition que j'ai acceptée.
Merci d'être venu nous voir ce soir.
J'adore l'interview très court.
J'adore le. Merci d'être venu nous voir. Qu'est-ce qui vous a paniqué dans cette nomination ?
Non, j'ai trouvé intéressant qu'elle accepte d'être une sorte de reine des neiges. Je crois que c'est un peu comme
c'est
ça Golan, que certains
journalistes,
Marianne, l'avaient désignée de cette façon-là, en obtenant un peu ce poste étrange qui est ambassadrice des pôles, à la fois du pôle sud et du pôle nord, poste qu'avait occupé Michel Rocard, je crois, jusqu'à son décès. Oui, mais en fait, pourquoi avions-nous eu envie d'évoquer ce point, simplement parce que l'un des grands bilans qu'on peut tirer de ce printemps ou de cette année scolaire, ça a été aussi l'échec des négociations sur le réchauffement climatique, le retrait des Américains, Donald Trump qui d'ailleurs vient de décider de déclassifier tout l'Utah. Vous savez que les monuments magnifiques de l'Utah, le désert de l'Utah, avaient été classés comme monument historique par Barack Obama, et Donald Trump a déclassifié l'Utah en disant non, pas du tout, on peut construire des autoroutes, des stations de service, des casinos en Utah. Il n'y a aucune raison de ne pas faire profiter les habitants de la manne financière.
Il ne vous déçoit pas, hein, j'ai l'impression, Jean-Jacques Benex, Donald Trump.
En plus, j'ai suivi sa campagne, j'ai écouté la nuit à 3h du matin en anglais, et je me disais, mais c'est pas possible, quelqu'un qui est aussi bête, qui a un vocabulaire aussi court. Je pensais pas qu'il pouvait gagner, mais on a drôlement gagné avec lui, parce que il est au-delà de tous nos espoirs. Il en rate pas une. Mais non, mais on se marre.
Mais
c'est terrifiant. Et l'idée de voir ce guignol, bon, qui est représentant quand même pour l'instant la puissance la plus grande du monde, enfin pour l'instant, parce que ça va à mon avis pas durer. Mais enfin, bon, c'est autre chose. Présider ce truc carnavalesque, défilé qui coûte un bras, où on est là avec nos petits avions, nos trucs. Alors là, voilà, là, il y a 300 millions à économiser, par exemple.
Ah, vous pensez qu'il faudrait supprimer le défilé ?
Ah oui, oui, oui. Non, mais franchement, je trouve que ça n'a aucun intérêt.
Le symbolique.
Mais qui s'intéresse qui et si on veut faire quelque chose pour l'armée, il faut faire quelque chose pour l'armée. Donc filons-leur les 300 millions en plus. Avec ça, on s'achète des tenues.
Je peux imaginer.
En
or massif. Puisqu'on parle de politique étrangère, Michael Prazan, vous vouliez revenir, vous, sur l'offensive de la coalition internationale contre Daesh à Raqqa et Mossoul.
Oui, parce que c'est le moment décisif. On est vraiment... C'est-à-dire qu'à chaque fois, on gagne des guerres, et je ne doute pas que Daesh finira par être délogé d'Irak et de Syrie, mais ce sera le début d'autre chose. Enfin, on va de métastase en métastase. Il y aura évidemment un reflux de ces, on ne sait pas, 30, 50 000 djihadistes étrangers qui sont sur le terrain et qui vont revenir dans leurs pays respectifs.
Donc la France,
mmh. Entre autres, la Tunisie, c'est énorme, ça doit être, je sais pas, 7, 15 000. Mmh. Enfin, on est dans une mondialisation. Il y a eu effectivement ce sanctuaire qui a permis de faire des dégâts monstrueux dans le monde entier, mais je crois qu'on est au début, voilà, d'une nouvelle ère et qui va produire aussi à la fois des métastases idéologiques qu'on a connues, type Al-Qaïda, qui a muté en Daesh et d'autres types de groupes, mais il va y avoir aussi un renouvellement et une résurgence d'actes terroristes partout dans le monde, et évidemment, très certainement, en France également.
Pardonnez-moi, parce que du coup, ça me fait penser que par rapport à ça, précisément, il y a une information qui n'est pas passée inaperçue, bien entendu, mais quasiment inaperçu et qui a soulevé, en tout cas, aucun commentaire d'un point de vue juridique du fait qu'on commandite que la France, c'est un article qui est paru, alors je ne sais plus si c'était le New York Times ou Washington Post, honnêtement, mais qui on commandite l'assassinat politique de ressortissants français. Et de l'avis de tous les experts, même au plus haut niveau militaire, c'est la première fois qu'un, c'était sous Hollande, hein, bien entendu, mais c'était la première fois qu'un président français commanditait l'assassinat politique de ressortissants français à l'étranger. Il y a une boîte de Pandore qui a été ouverte.
C'est pas sûr.
Non.
Oui. Alors. C'est la première fois qu'on le sait.
Oui. Non, oui, bien sûr.
Voilà. Vous parlez du président Hollande.
Oui, absolument.
On a même parlé ici dans l'émission, hein.
Officiellement et de façon quasi systématique, et je trouve que ça soulève beaucoup de questions. Alors bien sûr, alors nous on a posté un truc sur Cosette là-dessus, mais bien sûr on dit mais bien sûr c'est Daesh, allez-y, faut les tuer, on veut pas qu'ils reviennent, on veut pas qu'ils nous remettent des bombes. Bien entendu, on a toute cette réaction instinctive, intuitive de vouloir se défendre, de vouloir construire des obstacles et d'aller leur tirer une balle dans la tête. OK. Sauf que ça ouvre une boîte de Pandore qui est extrêmement inquiétante au cas où un jour le pouvoir basculerait d'un autre côté et d'un autre bord.
Je vous vois dubitatif sur cette question.
Oui,
Jacques
non,
Benex.
Parce que si ça bascule, ça bascule. Donc, quand on est en dictature, ce genre de choses ne se posent pas. Donc, je pense que c'est un faux problème. Ces gens méritent une balle dans la tête. Point. Voilà. C'est une guerre. C'est abominable. Mais on est dans une logique et il faut la suivre. Moi, ça me laisse de glace.
Nickel présent.
Pareil, et je pense que leur retour est bien plus problématique que leur bord sur le
mais
terrain.
Là, il semblerait
qu'il
y ait la mise en place, on peut, en tout cas au niveau français, d'une task force, comme on dit, antiterroriste, et que la France ait décidé de prendre des mesures, peut-être, que les gouvernements précédents n'avaient pas pris encore.
Bah, en réaction contre ce qui n'avait pas été fait sous le gouvernement Hollande, en effet. Hein.
Oui, on verra. Enfin, l'idée, c'est que l'information soit plus fluide. Et c'est une idée qui n'habite pas, d'ailleurs, que les chefs de renseignement, qu'on retrouve aussi sur le terrain. Là, je reviens de Vienne, non pas en Autriche, mais en Isère, où j'ai vu, j'ai assisté...
C'est vrai que la précision est
croyez-moi,
ça
change
fait
tout.
Un peu peur. Hein.
Et il y a des réunions qui sont organisées au sein de tous les TGI de France aujourd'hui, où on réunit des établissements scolaires, où on essaye de faire remonter l'information. Voilà, à partir, c'est avec du renseignement qu'on sera efficace, ça c'est sûr. Et à partir du moment où on a des services de renseignement qui sont peu renseignés et qui ne diffusent pas le renseignement à ceux qui pourraient en avoir besoin, c'est-à-dire d'autres organes de renseignement, il y a un problème. Donc, est-ce que ça va fluidifier l'information, le renseignement et être un outil efficace, ou est-ce que ça va apporter de la confusion? C'est un peu trop tôt pour le dire.
Eh bien, moi, je vous propose une pause cigarette after sex. Même si on l'a pas fait, c'est tout bon pour la révélation indie de l'année. On les a découverts, c'était en live dans le NRV. Apocalypse, tout de suite sur France Inter.
Crashing in the ocean from way above. Got the music in you, baby, tell me why. Got the music in you, baby, tell me why. You've been wanting me forever and you just can't say. On the forests of the love is wrapped in your arms. You've been hiding them and hollowed out pianos left in the dark. Got the music in you, babe, it's sounding well. Got the music in you, babe, it's sounding well. Apocalypse.
written up on your face a place. Come out, haunt me. I know you want me. Come out, haunt me. Sharing all your secrets with each other since you were kids. Sleeping sound.
Ça fait 21 jours qu'Abraham est dans son espace de couvaison. Et donc, comme prévu, le premier poussin a commencé à percer sa coquille il y a exactement une journée. Bah, finalement, c'est comme pour une mère, hein, et pour un père aussi, j'imagine, mais il a vraiment vécu l'attente de la gestation animale. Et du coup, c'est beaucoup d'excitation, beaucoup de fatigue, voilà, des petites craintes normales, même si voilà, tout était prévu pour l'arrivée des poussins. Il faut aussi s'adapter à ce qui se passe.
C'est le énervé, la rétro ce soir pour la dernière de la saison. Et pour ouvrir ce plateau saison culturelle, vous aviez choisi d'évoquer une des performances d'Abraham Poincheval qu'on avait reçue ici d'ailleurs.
Absolument,
dans le
rendez-vous. Parce que c'était un des moments forts de cette saison, j'ai trouvé. D'abord parce que l'art contemporain a plusieurs visages, dont un que moi j'aime beaucoup, qui est le visage de l'art provocateur. Et c'est vrai qu'Abraham Poincheval s'inscrit...
Qui s'était enfermé il y a quelques temps dans la peau d'un ours, ça c'était au musée de la chasse. Dans un rocher, ça c'était au palais de Tokyo. Et qui a donc aussi couvé ses œufs au palais de Tokyo.
Il est relativement gentil, parce que quand on compare par exemple aux actionnistes viennois, qui eux s'enfermaient dans un âne, par exemple éviscéré, donc lui évidemment est plus doux, oui. Mais en même temps c'est vrai qu'il y a cette démarche complètement sidérante qui fait qu'on regarde ça, on se dit mais il est fou ou quoi ? Et c'est justement cette folie-là qui nourrit la culture et l'art, et donc c'est pour ça que ça pose évidemment la question de se dire mais finalement qu'est-ce qui s'est passé dans la culture
cette année.
Depuis 6 mois. Et oui.
De votre côté alors, Guillemette Odessino, qu'est-ce que vous avez retenu de cette saison culturelle ?
Eh bien, en dehors du fait que Virginie Despentes.
Oui, voilà. Il y en a eu 3, ouais.
Ouais, ben voilà. Je l'ai dit 3 fois, ben ça tombe bien, il y a eu 3 tomes.
Donc 3 tomes, donc 2.
Je viens de finir le 3e tome et j'en suis encore bouleversée.
Titre.
Vernon Subutex, évidemment, tome 3. C'est vraiment la fin d'un cycle. C'est la fin d'un monde aussi. Enfin, moi, je trouve que politiquement, cette dame est visionnaire et que faudrait la mettre en plein milieu de l'Assemblée voir ce que ça donne. Donc oui, effectivement, ça, c'est un choc littéraire absolu. Mais en dehors de ça, une satisfaction. Cet hiver est sorti un film qui s'appelait « Il a déjà tes yeux », une comédie avec, bah dites donc, et que des acteurs noirs à l'intérieur, réalisé par un réalisateur noir. Eh ben, ça fait 1 400 000 entrées, mes braves dames et messieurs. Et c'est bien, parce que ça veut dire qu'en fait, on peut avoir une affiche avec des acteurs noirs talentueux qui racontent des histoires où Monsieur et Madame Dupont, c'est Monsieur et Madame Dupont, mais ils sont noirs, et que ça attire le public français. Et que ça marche, et que dedans il y a Aïssa Maïga, et qu'un jour il va falloir dire que cette fille est sans doute l'une des plus belles et meilleures comédiennes françaises.
Ah bah, au théâtre notamment, voilà. Super, ouais.
Et ça, eh bien, ça fait plaisir. On se dit que peut-être qu'effectivement, il n'y a pas que des comédies avec des blonds aux yeux bleus qui peuvent faire des millions d'entrées en France. Youpi.
Ça, c'était le choix de Guillemette Odessino. De votre côté, Virginie Roels? Depardieu qui chante Barbara.
Ah, écoutez, pardonnez-moi, ah bah oui. J'imagine que c'était attendu, etc. J'ai beaucoup réfléchi et en fait, malgré tout, moi, j'ai vécu ce moment comme un privilège absolu.
Au Théâtre des Bouffes du Nord.
Au Théâtre des Bouffes du Nord, où il était sur scène avec le pianiste de Barbara, où il a mélangé en fait l'interprétation des chansons phares hein, de Barbara. Il y en avait une qui était un peu inattendue sur Drouot, me semble-t-il, qui était chouette. Et cet homme et ses coups de gueule. seule et ça a fait une féminité qui était d'une sensibilité absolument inouïe. Moi, je pleure peu, voire jamais. Et bien là, j'étais bouleversée du début jusqu'à la fin. Quoi.
Vous qui l'avez dirigé Depardieu dans La Lune dans le caniveau, c'est ça, hein ?
Oui, absolument.
Jean-Jacques Benex, vous êtes allé voir le spectacle ?
Non.
Vous auriez eu envie de le voir ?
Non.
Vous auriez eu envie de retrouver votre grand ami Gérard Depardieu.
Non, mais quand on regarde quelqu'un pendant des mois et des mois, image après image, on le connaît tellement que, si vous voulez, c'est comme un enfant. On est tellement proche qu'on ne se voit plus. Moi, je sais dans quel état il est, combien de grammes d'alcool il a ou pas. Il me fait marrer, je trouve insensé ce qu'il fait, je suis moins fanat quand il va embrasser sur la bouche Kadyrov, là. Je trouve que là, il y a des limites à la vache sacrée. Donc, je suis certainement beaucoup plus critique que beaucoup, mais en même temps, je l'aime trop, ou il m'a fait trop de mal pour que je puisse ne pas l'aimer, ou trop de bien, etc. Voilà. Et c'est un phénomène.
Il était aussi le héros d'une bande dessinée particulièrement réussie de Mathieu Sapin.
Oui, ça, vous avez regardé ? Je l'ai feuilleté l'autre jour à la FNAC.
Très proche, j'imagine, de ce que doit être Gérard Depardieu.
Non, mais c'est quelqu'un qui est hors norme et qui est passé de l'autre côté. Il est recuit, ratacuit, et il arrive à en faire quelque chose. Et alors ça, c'est donné à très peu de monde parce que ça va au-delà. Par exemple, Gabin, à la fin, il était un peu comme ça, mais c'était pas à ce niveau-là parce qu'il se fout de tout. Ce qu'il a fait dans le film où il fait DSK, c'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire d'arriver à se moquer de soi ou enfin d'arriver à une sorte de dérision de ce qu'on est. Moi, je suis assez fasciné par ça. Il y a aussi un film absolument magnifique. J'ai une très mauvaise mémoire des titres où il est dans le Nevada, dans la vallée de la mort.
Ça, en revanche, ça m'a vraiment fait plaisir.
Vraiment un film
avec Isabelle Huppert.
Avec Isabelle Huppert.
Absolument magnifique. Un de mes coups de cœur de cette année, par exemple.
C'était vraiment un grand film.
Ouais, Denis Clou.
Voilà. Oui. Mais ça, il y a des films.
C'est peut-être le fait des monstres sacrés, en fait. Ouais. C'est-à-dire que la notion de pudeur est totalement on est dans l'impudeur la plus absolue et en même temps la plus grandiose, quoi. Il y a plus de filtre.
Mais là, il y en avait une immense de pudeur sur scène, hein. Pardonnez-moi, mais évidemment, je ne le connais pas comme vous connaissez, mais il y avait une pudeur immense, justement, la façon dont il prenait les mots, dont il les enrobait, dont il avait une modestie, inimaginable pour les prononcer. Et même quand on connaît Barbara bien, Barbara, quand on a été bercé par Barbara pendant 20 ans, eh bien, on pouvait
réentendre
ces musiques, autrement les réécouter et l'entendre à travers cette musique. Et là, vous avez raison, c'est que le seul moment où moi j'ai été assez troublée et dérangée et mal à l'aise, c'est sur la musique Göttingen, où tout d'un coup, vous savez, il y a ces phrases sur les enfants.
Ouais, les enfants de Göttingen,
je me suis dit, mais mon gars, j'ai pensé à la Syrie et j'ai pensé aux enfants et j'ai pensé à la Russie et là, tout d'un coup, hop, voilà.
Michael Prasant, on vous a demandé un coup de cœur culturel, vous en avez proposé trois. C'est le monsieur plus du NRV. L'apparition en février chez Fayard de Céline, la race, le juif, de Pierre-André Taguieff et Annick Durafour. L'exposition Zora de musique à la FIAC. Et puis Silence, le film de Martin Scorsese. On n'aura pas le temps d'aborder les trois. Votre choix final, ça serait quoi?
Ah, peut-être Silence. Silence, qui est initialement un livre de Shusaku Endo, auteur japonais chrétien. Qui a reçu l'équivalent du prix Goncourt en 66 et qui a été incroyablement adapté à l'écran par Martin Scorsese, qui est, je trouve, à la fois le livre, mais le film absolument merveilleux et bouleversant, et qui revient comme une espèce de je sais pas, comme une musique entêtante à l'heure actuelle, parce que ça raconte quoi? Ça raconte au XVIIe siècle cette espèce de tentative de l'Église catholique de christianiser le Japon. Et là, le retour de bâton, après avoir laissé faire pendant quelques temps, est impitoyable. C'est-à-dire qu'il va y avoir une répression terrible qui va s'abattre sur ces chrétiens du Japon, et notamment sur ceux qui les ont endoctrinés, c'est-à-dire les prêtres portugais principalement, et on va leur demander, dans une violence extraordinaire, d'abjurer leur foi. Et là, on a vraiment, pour le coup, un choc des civilisations, et le Japon veut rester le Japon,
et il va se montrer totalement impitoyable avec cette nouvelle religion qui propose des choses absolument invraisemblables dans la mentalité japonaise, c'est-à-dire le rachat de ses fautes, c'est-à-dire souffrir pour l'humanité. C'est des choses qui sont qu'ils ont même peine, pour ceux qui sont convertis, à embrasser totalement et à comprendre. Et dans ce choc des civilisations et des religions, il y a quelque part un peu de notre modernité ou de notre contemporanéité d'aujourd'hui, et je trouve que ce film est véritablement bouleversant.
Et de votre côté, Benoît Lagan, vous qui êtes venu de si loin pour porter la bonne parole, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, l'homme des séries?
Oui, non, mais moi, c'est bien évidemment les séries télévisées, mais en contrepoint un petit peu, parce qu'on parle sans cesse de séries, de plus en plus de séries, on dit que les séries, c'est le nouveau cinéma, enfin bon, on entend tout et n'importe quoi sur les séries, et moi qui suis beaucoup les séries, par exemple, Scorsese, quand il fait Vinyle, il faut pas qu'il fasse.
Je suis d'accord.
Il faut pas qu'ils fassent de la télévision. Faut que les cinéastes, ils fassent du cinéma et qu'ils arrêtent de venir faire de la télévision. Du coup, moi, j'avais envie de parler d'une série qui a marqué cette saison aux États-Unis, qui s'appelle This Is Us, qui est une série de rien du tout, qui est juste une chronique d'une vie familiale qu'on suit au long cours comme une vraie série télévisée.
Comme Amour, Gloire et Beauté.
Ah non, pas du tout. C'est parce qu'Amour, Gloire et Beauté, c'est du soap, donc ça invente tout et n'importe quoi. Là, on est dans la réalité des sentiments, mais comme la télévision peut nous le montrer au rythme du temps qui passe, et on n'a pas envie de se regarder la série en intégralité en un soir, on veut juste la voir un épisode par semaine, tout au long de l'année. Il faudrait que la télévision revienne, surtout la télévision américaine de ces dernières années, revienne à ça, à cette télévision-là, plutôt que de vouloir faire des longs films, qu'on laisse les longs films au cinéma et aux cinéastes.
Vous êtes d'accord avec ça, Jacques Benex? Vous aimeriez faire une série?
C'est un peu compliqué pour moi, parce que j'adore les séries, je regarde beaucoup de séries. Je trouve que c'est pas du tout la même écriture qu'un film, hein. Il y a des très bons cinéastes d'ailleurs qui font des séries. Il y a une qualité au niveau de l'image, au niveau de l'éclairage, des acteurs, ils sortent, il y en a à chaque fois un nouveau, une nouvelle, il y a un renouvellement absolument extraordinaire. Et moi je suis vraiment je m'en fais 2-3 par soir.
Ah oui, quand même.
C'est de
quoi
votre série, la série que vous regardez?
Là, en ce moment, là, c'est Orange is the New Black. Mais juste avant, c'était Cold Soul. Que j'aime énormément.
Merci. Merci à tous les quatre. Jean-Jacques Benex, merci Virginie Ruels. Cosette est bien merci sûr disponible en kiosque. Le premier roman, La Plume, apparu chez Stock. Mais Mickaël Présent, la prochaine actualité, c'est quoi?
C'est mon dernier film documentaire qui s'appelait La Passeuse des Aubrais, est passé il y a 2 semaines sur Arte, et j'ai écrit le livre tiré de la même histoire qui sortira au mois d'octobre chez Grasset. Il s'appellera La Passeuse.
Et enfin, Guillemette Odissino, je vais vous laisser les clés du studio 621, on va faire un peu de ménage avant de partir, ça va être nickel pour votre émission. On se fait des films entre 21h et 23h parce que c'est vous qui prenez la relève des soirées sur France Inter. Vous avez déjà le programme de la première, c'est mercredi prochain?
C'est Monica Bellucci.
C'est pas vrai?
Et si.
En direct?
En direct.
Super.
Et en deuxième partie, on parlera de Peggy Guggenheim.
Parfait.
C'est classe quand même, deux gonzesses différentes, mais tout aussi
on vous reconnaît bien.
Intéressantes.
On va maintenant se quitter sur le dernier disque de la saison, et Jean-Baptiste Audibert a choisi de me faire plaisir ce soir avec un duo 80s que j'adore, Mikado. Mais le titre m'inquiète un peu, Naufrage en hiver, comme une menace sur France Inter.
Winter is coming. Changeant dans les lames de l'océan.
naufrage en hiver, mais cap sur l'été. Voilà le nouveau rendez-vous. C'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine et pour cette saison. Merci à tous de nous avoir été fidèles, toujours plus nombreux. On était ravis et joyeusement énervés de vous retrouver chaque soir. Alors que vous dire ? Eh bien qu'on va se retrouver le 28 août prochain. On travaille sur la programmation. Un grand merci aux énervés de l'équipe. Stéphane Leguenec et Elsa Béranger ce soir à la réalisation. Virginie Rosic, Benoît Lagan, Corinne Valente, Marie Mougin qui ont travaillé comme des fous qu'ils sont à la programmation. Je n'oublie pas bien sûr toutes ceux et celles qui ont fait ce nouveau rendez-vous cette année. Sonia Leglen, Alice Antôme, Marie-Laurence Chéry, Thomas Claire et Stéphanie Cabre. Le NRV prend des vacances. On se retrouve le 28, 22h minuit. En direct, ce sera en plein cœur de la Maison de la Radio. Je crois que tout a été dit, Christophe. Presque, tout a été dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir, le bon week-end et le bel été.
Wow! Un rendez-vous.
Et tout de suite, on se termine. On se termine, mon Dieu. Quelle expression atroce.
Rendez-vous à la plage.
Et le dernier arrivé est fan de Phil Collins.